That's my nigga. You didn't know that's my nigga.
Who was the nigga?
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إن شاء الله عز وجل nous aimerons poursuivre la lecture de notre épître العقيدة الصفارينية cet épître qui nous est difficile le dogme, le credo, la croyance, la foi correcte, d'après le manhaj de Ahlul Sunnah wal Jama'a, Al-Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiya, qui sont nos salafs, Al-Salih. Mais Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de d'avancer, Inch'Allah, on aimerait d'abord poser quelques questions pour se rassurer que le message passe, que l'on prête l'oreille. La première question que je pose, le chef, dans les premiers vers qu'il a mentionné, il a dit Alhamdulillah al-Kadim al-Baqi. Qu'est-ce qu'il dit Alhamdulillah? Qui peut nous dire ce que c'est Alhamd? Fadel Sheikh Ahmed. Faut pas être derrière les poutres parce qu'on aimerait interroger aussi désigner certaines personnes. Faut se détendre. Le Cheikh a dit que les louanges se disent à Sana. Non. Qui dit autre chose? Le Cheikh a dit Alhamd à Sana, les louanges. Qui dit autre chose? Nam Chef. Les louanges qui traduisent Al-Kamal. Qu'est-ce qu'il dit Alhamd Yassar Chef. Alhamd. C'est quoi Alhamd? Là, ça, c'est la traduction du mot. C'est les louanges. C'est les louanges? Asana? Non. Alhamd, c'est pas les louanges. Nam Fadel. Il parle de la glorification. La louange, c'est quoi, mes frères? Wasful Mahmoud bil Kamal. C'est le fait de décrire celui à qui on exprime. Mais c'est-à-dire, Selham, c'est le décrire de la perfection. Vous comprenez? Mais, bi wajhi al-mahabba wa ta'zim. C'est-à-dire, cela doit être couronné par quoi, mes frères? Al-Mahabba, l'amour wa ta'zim, l'agrandissement. Celui qui dit que la louange, Alhamd, d'ici à Sana, la louange ou l'éloge, c'est pas clair. À cause du hadith Qudsi, recueilli par les Aïmma, Al-Ma'bur et Al-Mu'tabirin, qui disent que on ne peut pas dire que Alhamd s'est dit à Sana, parce que dans le hadith Qudsi, Allah dit, Qatamtu Salah, Beini wa Beina Abdinifin. J'ai partagé la prière entre moi et mon esclave en deux. Fajata la Abd, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Qala Allahu Ta'ala, Hamadani Abdi. إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليها أبي. الله قال بالثناء للوج lorsque le serviteur dit plutôt الرحمن الرحيم. C'est comme si lorsqu'on fait le tikrar du madh, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie beaucoup les sana, c'est ça qui devient, c'est ça qui devient, c'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est-à-dire asana, c'est-à-dire qu'on multiplie beaucoup les hamd, c'est à ce moment-là que ça donne asana. Mais dire alhamd, c'est les loges ou quoi, là. Faut être muntabit dans le dab, c'est à dire. Dans le lab de Jalal, Allah, il y a l'âme. Alhamdulillah, qu'est-ce qui signifie ce lame, la chef? Il dit que le lame signifie l'adoration. Azallah Yajouz. Ça veut dire que vous n'êtes pas attentif au cours au sal. Qu'est-ce qui signifie le lame, la chef Mohamed? Le lame qui est dans le lab de Jalal, Alhamdulillah. Quelle lame la signifie quoi? Hein? As-sahib, c'est-à-dire le lame d'accompagnement? Là, Yajouz, là, chef. Ce n'est pas le sahib. Quelle lame signifie quoi? Ya imam, le lame d'Alhamdulillah, c'est l'âme qui vient dans le lafz Jalal, Alamuzad, Li, La, c'est l'âme là qui signifie quoi, ya chef? L'âme Ta'lil. L'âme Ta'lil, La. Fadal chef. Il a dit que c'est le lame d'appartenance, c'est-à-dire le lame milk, n'est-ce pas? D'appartenance, La. Fadal Ustaz. Il a dit c'est le lame du ta'zim, La. Le lame qui est dans le lame du Jalal, Alhamdulillah, c'est le lame al-ihtifaz. Et le lame al-ihtifaz. C'est-à-dire, c'est le lame du droit. C'est-à-dire, nul ne mérite d'être louangé sauf à la seule. Et maintenant aussi, le lame de la spécificité, ça veut dire, toutes les louanges appartiennent seulement à qui? À Allah. Donc on a comme l'impression que vous n'êtes pas attentif au cours, ou alors vous ne mettez pas du sérieux. Non. Il faut n'est-ce pas, c'est-à-dire mettre du sérieux. Parce qu'on a, au début de ce programme, on a signifié que ceux qui vont mémoriser ce matin et participer au cours auront, n'est-ce pas, c'est-à-dire un présent qui est déjà prêt, un présent qui est déjà gardé. Alors, mais quand on pose des questions, vous ne répondez pas, c'est comme si vous ne mettez pas du sérieux. Et ça, on ne veut pas. Parce que le aqida, c'est le meilleur de tous les savoirs. Le chef a dit Al-Qadim. On a beaucoup parlé d'Al-Qadim. Qu'est-ce qu'on a dit? Fadal Cheikh. Barakallahu fik. Al-Qadim ne fait pas partie des noms d'Allah. Pourquoi? Fadal. Parce qu'Allah ne l'a pas mentionné dans les nusus. Si Allah. Mais il y a aussi une raison plus sage. Fadal Cheikh Mohammed. Barakallahu fik. Le chef a dit que ça ne spécifie pas la glorification, mais nous préférons dire que ça ne prouve pas la perfection. Parce que les noms d'Allah sont parfaits. Walillah l'asmaul husna. Al-Qadim, quelque chose peut être considéré d'ancienne, mais ce n'est pas parfait. Comme les phases que prend la lune, wal-qamar, kadarnahu manazila hatta ada kal-urjun al-Qadim. Alors que vous savez que la palme ou les branches de la palme, c'est des choses créées. C'est un muhdith, donc ce n'est pas parfait. Alors, le charte dans le nom d'Allah, c'est que le nom d'Allah doit être, n'est-ce pas, c'est-à-dire, Al-Kamal. Donc, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, soyez désormais attentifs au cours, parce qu'on va toujours poser des questions pour se rassurer si nous sommes ensemble dans ce programme. On ne voudrait pas que les gens viennent s'asseoir au cours de Aqidah, comme si c'est au marché là, la mosquée. On fait le ta'zim de la mosquée, on fait le ta'zim des mawab, qu'on étudie, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikoum. Faut pas s'en prendre, faut pas se fâcher. Là. La quinte, c'est qu'on veut que le cours, n'est-ce pas, c'est-à-dire, soit vivant. Donc, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va essayer de venir sur la rubrique d'aujourd'hui. Parce que toujours dans ces premiers vers de poésie, il a dit, Alhamdulillah, il kadim, il baqi. Ici, on parle de al-baqi. Al-baqi, qu'on peut traduire, on peut donner un essai de traduction en français comme le demeurant qui demeure. Al-baqi. Al-baqi, il sait qui demeure. Al-baqi. Al-baqi, comme le cheikh a parlé de al-kadim, n'est-ce pas, le cheikh Ahmed, ça ne fait pas partie des noms d'Allah Azzajal. Lam yarid min asma illa. Et c'est pourquoi vous vous souvenez qu'au début de ce programme, on signifiait que ce aqidah, c'est l'aqidah à la manhaj al-salaf. À la seule différence qu'il y a quelques petites erreurs. Et ça, c'est la nature de l'œuvre humaine. Al-kamalu lillahi wahdahu. Il y a quelques petites erreurs du cheikh et on a corrigé ça rapidement. Mais on donne une excuse au chef parce que le chef, on pense que lui-là, il a donné ses noms sous forme d'information, Mimbabi Khabar, et non pas Mimbabi Tesmir. Voilà la différence. Mais il est très important de connaître que Al-Kadim ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on a trouvé dans le Coran, n'est-ce pas, dans le Surah Ar-Rahman. C'est-à-dire, on ne peut pas dériver le nom d'un attribut. C'est très attentif, ça c'est l'aqida, parfois c'est un peu. On ne peut pas dériver, n'est-ce pas, c'est-à-dire un nom d'un attribut. Mais c'est plutôt l'inverse qui peut avoir lieu. C'est pourquoi vous savez que le chapitre des attributs est plus vaste que le chapitre des noms. Parce qu'effectivement, chaque nom indique un attribut, mais chaque attribut ne peut pas indiquer un nom. Par exemple, on dit qu'Allah parle, mais personne ne peut appeler Allah al-Mutakallim. Malgré qu'Allah ne peut pas parler. Allah a parlé à Moussa. Son Seigneur lui a parlé. Mais on ne peut pas appeler Allah al-Mutakallim. Il en est ainsi parce que le nom al-Mutakallim aussi n'est pas Kamal. Parce que quelqu'un peut parler en disant des choses correctes, tout comme il peut s'exprimer en disant des mauvaises choses. Donc ça ne convient pas de donner à Allah subhanahu wa ta'ala ce genre de nom. Mais ça fait plutôt partie des attributs. C'est pourquoi on a dit le chapitre des attributs est plus vaste que le chapitre des noms. Et puis il y a des règles. « Anakul l'ismi mutadamminu l'isifa, walaysakul l'isifa, jtaku minha l'ismi. » Comme on a cité, chaque nom, n'est-ce pas, indique un attribut, mais tout attribut n'indique pas. Par exemple, Allah Azzajal dans le Coran, il dit qu'il ruse, n'est-ce pas? Wa makara Allah wa Allahu khayru wa makaru wa makara Allah. Là, tu n'es que quelqu'un peut appeler Allah al-makir, le ruseur. Là, ça ne convient pas. Ça ne convient pas du tout. Mais sous forme d'attribut, oui, Allah nous dit qu'il ruse contre les koufars. Et sa ruse est la plus forte. Mais on ne peut jamais appeler Allah al-makir. Et souvenez-vous quand on introduisait cet épître, on a dit que c'est la rubrique dans laquelle tous les groupes qui se sont égarés dans l'islam ont échoué. La rubrique des noms d'Allah Azzajal et ses attributs. C'est une rubrique très sensible. C'est une rubrique très sensible. La plupart des musulmans du monde savent qu'Allah c'est le seul qui doit être adoré. Même si ils entrent dans certains shirkiyats de trouver des intermédiaires à Allah, ceux qui adorent des cheikhs parmi les soufis et autres, mais sinon qui s'accordent tous que c'est Allah qui doit être adoré. Alors parfois les machères les amènent des petites banalités, des petits mensonges pour manger leur argent dans le faux. Que moi je vais intercéder pour vous auprès d'Allah. Si vous passez par moi, un peu des choses pareilles. Mais ce n'est pas que vous ne pouvez pas trouver un musulman sur la terre qui dit qu'il faut adorer le chef. Mais il dit que ce que je fais, je n'adore pas le chef. Parce que quel que soit le cas, le musulman en principe doit être meilleur qu'un mouchri. Et même les mouchriquines ne considéraient pas les idoles qu'ils adoraient comme des divinités séparées. Bali disait, la na'abudu illa liqaribuna ila Allah. Nous ne les adorons que pour nous rapprocher, pour qu'elles nous rapprochent d'Allah. Ça veut dire que ces mouchriquines, ces polythéistes, ils reconnaissaient vraiment qu'Allah existe. Voilà, in sa'altahum man khalaqahum. Si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire c'est Allah. Alors le musulman a plus forte raison. Ceux qui adorent les chefs et les tombes et tout ça, parmi les sectes égarés, ce n'est pas qu'ils disent l'adoration du chef, mais le chef les a trompés. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum al-a'imma al-mudillin » Ce dont j'ai le plus peur pour vous, ce que je redoute le plus pour vous, c'est des imams égareurs. Parce que ces imams-là de la bid'ah viendront, n'est-ce pas, ruiner, c'est-à-dire des fidèles, et les conduisant comme ça dans le feu de l'enfer. Parce que faut pas, c'est pas parce que quelqu'un est trompé qu'il est forcément sauvé. Là, Allah a donné à chacun la raison, il a envoyé des messagers, il a donné des avertissements, et Allah a dit wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula. Allah ne peut jamais châtier sauf qu'il a envoyé un messager, et le messager est venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quitte le monde, il ne nous a pas laissé derrière un cheikh, ou derrière un pays, ou derrière une tradition dans un village. Ben, il ne nous a pas laissé, même sur les actes des habitants de la Mecque, ou de Médine, ou du Soudan, n'importe où. C'est-à-dire, c'est un lieu où les gens essaient de faire de leur mieux cette religion par rapport à d'autres. Même les gens de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas recommandé leurs œuvres. Plutôt dans le récit de Ibad ibn Sariya, il a dit, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. À vous ma sunna et la sunna de Khalid. Vous comprenez, Adjama? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit de ce sahabi Jalil, qui connaissait bien, n'est-ce pas, le fitan, jusqu'à ce certain tout là, ils l'ont appelé Oustaz فتن، أستاذ علم فتن، تديه زيفة في اليمن لغسل سمدي دعاة على أبواب جهنم كده جان فو أبلي دفان لفوت دلانفير من أجابهم إليه اقتذفوه فيها. Celui qui va répondre à cet appel, ils vont le jeter dans le feu de l'enfer. Ces femmes-là, d'ailleurs, Rasoul Allah, qui sont ces gens? Ils disent, hum min jilbatina, tatallamuna bi asnatina. Ce sont des musulmans, là, qui sont des musulmans égarés. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. C'est pourquoi le prophète Allah nous a avertis, et chacun d'entre nous doit être convaincu, que le messager d'Allah n'a jamais quitté ce monde, sauf qu'il nous a montré le droit chemin dans les plus petites limites. C'est-à-dire le prophète Allah n'a pas laissé une chose, même si elle est petite, qui peut nous amener du bien, sauf qu'il nous l'a indiqué. Il n'a pas laissé une chose qui peut nous conduire dans le mal, même si c'est minime, sauf qu'il nous a indiqué. C'est pourquoi il a dit, Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur une voie claire. Layliha kan-nahariha. Elle est claire de jour comme de nuit. Mais c'est garde que celui qui est voué à la perte. C'est pourquoi le jour du pèlerinage d'Adieu, alors qu'il était sur Arafat, il a dit, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Allah c'est témoin que j'ai transmis ma mission. Allah a couronné ça par un verset qui mérite d'être écrit avec de l'or sur nos corps. Mais ça dit pour qu'on n'oublie jamais. Allah vous a descendu le verset Al-Yawm Akhmatu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. C'est la raison. Les musulmans n'ont pas beaucoup de problèmes sur l'ulouhiya. Il y en a qui peuvent avoir des problèmes sur une petite minorité. C'est des gens, c'est-à-dire. Lakin, si les Asmé ou Atifat, le terrain reste puissant. C'est pourquoi vous voyez des grands imams comme Imam Asafrani, de temps en temps, ils prévuchent un peu. Parce que c'est un terrain très glissant. Mais Alhamdulillah, Allah a préservé cette religion. Allah envoie toujours des ulamas rabbaniens qui nous retirent les erreurs de ces grands savants et qui nous éduquent à ne jamais minimiser un savant, même s'il a commis une erreur. Il vient seulement corriger, mais les savants restent très considérés chez nous. Et vous savez bien que on ne peut pas faire on ne peut jamais mêler un savant et un ignorant. Allah a dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna wa alladhina la ya'lamun. Sont il égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sauf que les savants chez nous ne sont pas mahsoum. Ils ne sont pas exempts de commettre des erreurs. Sauf que leurs erreurs sont des petites erreurs. Ils ne commettent pas des erreurs comme nous, en bref. Alors, à savoir, ce qui était donc meilleur, Anyad al. بدل هذين الاسمين كل شيخ مثل القديم الباقي تجني في ديسلتو الاول على بلاس القديم والاخر على بلاس القديم فكيف تفكر في القران ده سوره الحديث هو الاول والاخر والظاهر والباطن ولا لاوصاف الله سبحانه وتعالى تدوني بهم كما ثبت ذلك في القران والسنه قوله نعم مقدر الاجال مقدر الاجال اي جعلها على قدر معلومه الله سبحانه وتعالى هيليميتي مي سا دير لي ديشيانس الاجال جمع اجل وهو منتهى شيء تدي لا ديليميتاسيون tout ce qui existe doit avoir un terme sauf Allah seul mais sinon que tout ce qui existe en dehors d'Allah doit avoir un terme الدوام لله وحده. Et ça, c'est une sunna qawmiyya dont il faut souvent s'habituer. Pourquoi est-ce qu'on introduit cette histoire qui, à la base, ne fait pas partie de ce dont nous sommes en train de traiter? Parce qu'on a remarqué que beaucoup d'entre nous, les jeunes, on se décourage beaucoup. On se décourage. Quelqu'un essaye quelque chose. Ça ne va pas dans la direction qu'il a souhaité, il se décourage. Le découragement n'est pas bon. Mais il faut plutôt être rassuré et savoir que dawam al-hal min al-muhal, la persistance d'une situation est impossible. Un être humain, qui qu'il soit, il faudrait qu'un jour il soit heureux, un jour il soit malheureux. C'est sa couronne, cette sunna qawmiyya qu'Allah nous a dit dans le Coran, wa tilka al-ayyam yudawiluha bayna an-nas. Allah tient les jours parmi les gens. Parce qu'à toute chose, Allah a donné un décret de kulli ajalin kitab. Kulli ajalin kitab. Toute chose n'est pas c'est-à-dire un terme connu. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, n'est pas muqaddirul ajal. Waminhu, umrul insan masalan. De ces échéances qui ont un terme, la durée de vie d'un être humain. La durée de vie d'un être humain. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah rahmatan wasi'ah, il rapporte que Al-Kassim, dans sa localité, il y avait un véhicule, c'est-à-dire qui s'arrête pour céder le passage à une moto. Et puis la moto aussi, Hakikatan, s'arrête pour céder le passage au véhicule. Donc il reste comme ça pendant un bout de temps. Et quand le monsieur du véhicule décide de s'engager, c'est au même moment que l'homme de la moto s'engage et il y a collusion, celui qui est derrière la moto meurt. Cheikh Al-Oussaymine dit, cet instant d'arrêt, d'attente, a eu lieu parce que le terme n'était pas encore arrivé à ce moment. Il fallait quand même ces quelques petites minutes d'attente pour que la mort arrive à son terme. Faites Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété un terme à toute chose. Non. وقوله الأرزاق الأرزاق جمع الرزق وهو العطاء للرزق كالله سبحانه وتعالى سدوتاسيون كالله سبحانه وتعالى نزقرا والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته الله عز وجل octroie le risque la subsistance à qui il veut mais en fonction de sa sagesse et sa miséricorde. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui limitent les risques d'Allah dans le manger et le boire. Non, le risque d'Allah dépasse le manger et le boire. La femme c'est le risque, les enfants c'est le risque. Bal, la foi même c'est le risque qu'Allah Azzayal octroie. Vous savez bien que même le prophète Allah ça ne peut pas donner la foi à quelqu'un. Ou ce n'est pas ça. Même le prophète Allah ça ne peut pas donner la foi. Parce que si le prophète Allah ça pouvait donner la foi, il n'y a pas de doute que Abu Talib qui a protégé cette religion, qui a secouru le prophète Allah ça, à qui le prophète Allah ça aurait tout fait pour qu'il embrasse le sang, mais il est mort cadre. Et mon cadre, c'est maintenant. Ce risque, il y a demain, Allah effectivement l'octroie en fonction de sa sagesse. À partir d'ici, chacun d'entre nous doit savoir Al-Fakr ou Al-Ghina, c'est-à-dire la misère et la richesse, toutes deux sont des épreuves. Beaucoup de soufaha pensent que les épreuves, c'est seulement la misère. Là, la richesse aussi, c'est une épreuve. Vous pensez que quand Allah vous donne une femme, des enfants, une situation, c'est fini? Allah vous éprouve pour voir si vous serez reconnaissant. C'est une épreuve. Ben, parfois, c'est une épreuve grave parce que la plupart des gens sont ingrats. Alors qu'on a demandé à Karoun de reconnaître les bienfaits d'Allah sur le risque qu'Allah lui a donné, il dit ça, je l'ai eu de mon savoir. D'autres disent, j'ai hérité des parents, d'ancêtres en ancêtres. Alors que, en réalité, ce que quelqu'un a, c'est ce qu'Allah offre à ses derniers. Et c'est ça la vérité. Wallahi, si Allah n'offre pas quelque chose à quelqu'un, aucun être humain ne peut donner. Bal, l'humanité tout entière, rassemblée. Méditez avec nous toujours le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Dans une portion de ce hadith, le prophète alayhi abdallah salat wa tamat taslim, il dit Wa'alam anna al-ummata la ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, lam yanfa'uka illa bi shay'in, katabahu lawla. Sachez que toute la communauté se rassemble. Depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier des êtres humains. Tout se rassemble pour qu'un bonheur, un profit te parvienne. Ce profit ne te parviendra jamais, sauf si Allah l'a fait pour toi. C'est-à-dire même un morceau de déni. C'est pourquoi nous rappelons toujours une histoire. Vous êtes tellement habitués à cette histoire. C'est un frère, lorsqu'il avait un corps, ils ont trouvé du riz dans sa bouche. Méditez bien, soyez un peu attentifs. Ils ont trouvé du riz dans sa bouche. Ils ont enlevé ces riz, ils ont jeté. Alors ces riz, même s'il était déjà dans la bouche de ce dernier, Allah n'a pas prévu pour lui. C'est pourquoi justement on a retiré et on a jeté. Le risque du fils d'Adam est maktoub, c'est précis. Le risque du fils d'Adam est maktoub. Bal Allah, comme dit certains savants, Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant de ses serviteurs que quiconque. Et comme les gens sont différents les uns les autres, Allah sait parfaitement que si à un tel, je ne donne rien, il ne peut pas m'adorer. Et Allah sait parfaitement qu'un tel autre, si je donne, il ne peut pas m'adorer. Parce qu'Allah al-Hakim, le sage, il fait une toute chose de sa science. Les gens sont différents. Il y a certaines personnes qui ont, c'est terminé, ils remercient aussi la religion. Mais sinon pas, ils reviennent de temps en temps. Mais d'autres, c'est le contraire. C'est s'il n'a pas qu'il est plus sérieux dans son adoration. Les gens ne sont pas pareils. Allah, azzajal, de ce point de vue, descend tout en fonction de sa sagesse. En fonction de sa sagesse. Mais lorsque nous disons que c'est à Allah Azzajal qu'appartient la subsistance, est-ce que cela signifie que quelqu'un ne reste pas sans prendre des pauses pour parvenir à un risque? Non, ça ne veut pas du tout dire cela. Celui qui pense que si Allah a prévu tout pour moi, je dois rester couché, on pensera qu'un animal est meilleur que lui. Parce que vous voyez, n'est-ce pas, c'est-à-dire le coq qui sort de sa cage pour aller picorer, s'il a besoin de manger. Il ne reste pas. Yakhruj, pour prendre des asbab, l'homme à qui Allah donne la raison doit être plus clairvoyant. Mais la seule différence, que quelqu'un ne compte pas sur ses causes, qu'il doit prendre pour se conformer à la sunna, mais compte sur Allah et place toute sa confiance en Allah. C'est pourquoi des salafs pour ça les dit, man ta'ana fil asbab, ta'ana fil iman, wa man ta'ana fil man ta'ana fil asbab, ta'ana fil sunna, wa man ta'ana fil tawakkul, ta'ana fil iman. C'est-à-dire celui qui ne prend pas des causes, il délaisse la sunna. Parce que le professeur Allah s'en était l'homme qui avait le plus confiance de qui que ce soit en Allah. Il n'y a pas de doute que le professeur Allah s'en est celui qui a le plus placé sa confiance en Allah, mais s'il avait besoin d'enfants, il se mariait. Vous ne savez pas, les enfants vont tomber du ciel. Le professeur Allah s'en, quand il allait au djihad, vous savez bien qu'il mettait la mûre de guerre. Dira, Bali se protégeait sérieusement. Aslam se protégeait sérieusement pour qu'une flèche d'un mouchik ne vienne pas. Et il prend des précautions. Ce n'est pas ça, Adjama. Alors on s'étonne de certaines personnes qui ont un tawakul qui n'est pas le tawakul, qui est le tawakul. Sa foi déborde un peu les limites. Allah a tout prévu pour moi, je suis dans ma chambre. Ça c'est presque la folie. C'est presque la folie. Il faut placer la confiance en Allah, mais il faut prendre des causes. Lorsque quelqu'un fait tout ce qu'il a fait comme cause et qui ne parvient pas à ce qu'il a désiré, c'est à ce moment-là qu'il renvoie tout à Allah Azzajal. Le fa'al tu kaza ou la kana kaza, il ne dit plus ça, mais il dit plutôt kadarullah, comme un chafa'an. Le dessein, Allah fait ce qu'il veut. Qui kata n'y a pas. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un puisse parvenir à beaucoup de biens sans prendre de cause. Par exemple, un homme est très riche, il laisse un petit orphelin avec toute la richesse. C'est possible, yumkin. Il n'a fait aucune cause. Mais le risque d'Allah, c'est toujours parvenir. Sauf que dans les sunan al-sunniyah d'Allah Azzajal, Allah a dit à chaque chose des causes. Bon, maintenant, mes frères, les causes ont des sentences juridiques. Il y a des causes qui sont strictement obligatoires. Je pense que chacun d'entre nous doit obligatoirement prendre la cause qui le conduit au paradis. Il faut prier, il faut réaliser la piété. C'est une cause obligatoire à prendre. Mais il y a des causes qui ne sont pas strictement obligatoires. Même si elles ne sont pas mauvaises en soi, même si elles ne sont pas strictement obligatoires, c'est-à-dire quelqu'un n'est pas obligé de s'investir d'une obligation contraignante pour donner des demandes. Non, ce n'est pas une cause obligatoire, mais disons c'est une cause méritoire. Il y a des causes interdites aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade n'a pas besoin du haram pour se traiter. Quelqu'un qui est malade n'a pas besoin d'aller voir un charlatan, un magicien, un divin, parce que c'est une cause haram. Donc il a réduit sur des causes et une cause, noble, qu'il faut bien, n'est-ce pas, c'est-à-dire maîtriser et savoir la marge, n'est-ce pas, c'est-à-dire de jeu quand je veux prendre ma cause. Vous savez bien que beaucoup d'élèves parviennent à réussir, mais au bout de la tricherie. À l'école, on dit qu'ils ont des cartouches, et il a la note qui passe. C'est une cause haram. Mais la vraie cause, plutôt pour un étudiant, c'est de lire ses raisonnements. Et maintenant, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter, c'est-à-dire les affaires. Mais, en ce qui concerne le risque, puisque tout le monde parmi nous presque se plaint du risque qui n'est pas suffisant. Allah a déjà donné aussi des causes de la foi. Et ces causes sont les causes prioritaires à prendre. Chacun d'entre nous, parfois, délaisse ces causes qu'Allah a plutôt données pour que nous parvenions au risque. La plus grande de ces causes, c'est la taqwa. Parce qu'Allah dit dans le Coran, « Man yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. » Quiconque fait preuve de piété, Allah améliore sa vie. Subhanallah. Les salafs aimaient ce genre de nusus. Les nusus dans lesquels on disait, Man fa'ala kaza fala ou kaza, c'est-à-dire celui qui fait telle chose, voilà ce qu'il attend. Allah dit Man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Quiconque craint Allah, Allah améliore sa condition de vie. Warzuqhu min haythu la yahtasib. Et Allah Azzajal octroie celui-là les risques par des moyens dont il ne connaît pas l'origine. Il ne connaît pas l'origine. Voilà une cause, n'est-ce pas, la taqwa, qui consiste à éviter tous les péchés et à faire tous les actes obligatoires, à poser tous les actes obligatoires. Cela amène à quelqu'un des risques. L'autre cause qui permet de parvenir au risque, c'est beaucoup d'istighfar. Implorer très souvent le pardon d'Allah Azzajal. Parce que selon le récit, man akfara al-istighfar wa kiriwaya man nazam al-istighfar. C'est-à-dire celui qui est constant dans l'imploration du pardon. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, makhraj Allah va améliorer toutes les difficultés. Wa al-zukwa la fa min haythula yahtatif. Et à la fin, Allah va pourvoir à celui-là les risques par des moyens dont il ne connaît pas l'origine. Et l'autre cause aussi, c'est le tawakkul, la confiance justement, dont on discutait il y a quelques moments. Parce que le professeur Lassamon a rapporté de lui qu'il a dit, من توكل على الله حق توكله. Quiconque place sa confiance en Allah comme cela se doit, n'est-ce pas, Allah a déjà va lui donner le risque comme ayat Zukumaza à Faye. Il va le nourrir comme il nourrit l'oiseau. Et il sort affamé de son nid et rentre toujours le pain dans la tragédie. Mais lui qui n'a pas un magasin quelque part, le verset de la Sainte dit si nous plaçons notre confiance en Allah comme ça se doit, voilà ce qui nous attend. Effectivement, c'est pourquoi les savants voient que placer la confiance en Allah fait partie des actes d'adoration les plus importants. Bal, c'est peut-être même l'implication de ce que nous tous nous récitons dans notre sourate Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont on implore le secours. Pourquoi est-ce qu'on implore le secours à Allah seul? C'est parce que c'est à lui seul aussi qu'on a placé notre confiance. Ta'alallahu wa taqaddam. Et il y a aussi un autre moyen qui est très important qui permet de parvenir au risque. À côté de l'istighfar, du tawakkul et de la taqwa, le fait de donner des aumônes. Parce que le Prophète a dit dans le hadith d'Abu Qasid al-Nari, recueilli par Imam Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad, Imam Tirmidhi, le Prophète a dit Ma naqasa malu 'abdin min sadaqa. Jamais les biens d'un serviteur n'ont diminué parce qu'il a donné une aumône. On rapporte qu'il y a un jour, un voyageur, et chacun d'entre vous estime le voyage. Parce que le Prophète vous dit que le voyage est une portion du feu de l'enfer. Ne pensez pas que c'est une parole comme ça. Et ne pensez pas que le développement aujourd'hui, scientifique, les avions et tout ça, vont changer cette réalité. Mais chaque personne qui voyage, quel que soit le moyen qu'il emprunte pour voyager, se sent toujours quand même vraiment épuisé, se sent toujours parfois vraiment endommagé, c'est-à-dire, alors on rapporte que quelqu'un a voyagé dans une contrée étrangère. Beaucoup de gens aiment voyager, peut-être par application pratique de la parole d'Allah, partir au fil arbre, parcourir la terre, ou alors d'autres veulent chercher les risques, d'autres veulent faire un peu d'aventure, c'est connu. Al-Muhim, il a voyagé. Mais vous savez que c'est parfois très difficile. On arrive dans une contrée, on ne connaît personne, ces petites économies se sont épuisées, et le résultat de cause, il est coincé. Alors il est obligé de se tenir au bord de la route et de solliciter des gens. Il y a dans une lignée de voitures. Alors vraiment, il essaie de dire, je suis un voyageur en défense et tout ça. Les véhicules naturellement passent. Mais non loin de lui, il y a une femme. C'est bien connu chez les Arabes. Les gens font du chai au bord de la route. Et aussi, ça c'est ce qu'on appelle le karkadé, foléré. Chez les Arabes, ils le boivent plutôt chaud. Mais c'est ça que nous ici, on l'aime vraiment bien glacé, quoi. Mais chez les Arabes, on les sait chaud, comme le chai. Alors, dans tous les coins de rue, vous trouvez des femmes qui font ce chai. Et c'est des choses pareilles. Alors, non loin de ce monsieur, il y avait cette femme-là. Et d'abord, vous savez que ça ne produit pas grand-chose. Parfois, un autre monnaie, ça peut coûter 25, autre 50. Quelqu'un qui s'assoit pour récolter 25, 50, c'est pas franchement un business important. Alors que monsieur n'est pas loin de cette femme, il continue à faire sa mendicité. C'est-à-dire les gens qui passent sur le site, franchement, il essaie de crier, je suis un voisin de détresse, il n'est plus rien. Et puis les gens passent. Alors, un monsieur, on rapporte qu'un monsieur est passé. Il est passé effectivement. Mais c'est comme si Allah a touché son cœur et il a trouvé la nécessité de venir soulager ce monsieur. Et c'est bien connu, ces gens-là sont parfois généreux. C'est donc Allah a déjà dit devant le bien. Il a fait un bon passé. Il était déjà très loin, il a décidé de rentrer. Lorsqu'il est arrivé, il y a quelque chose que j'ai sauté qui est très important. Ce monsieur-là, en passant, il a remarqué un geste. C'est quoi? C'est qu'il a vu cette femme-là, qui a donné à ce... Il dit, viens, viens. Elle a été générée en donnant peut-être une petite pièce de monnaie, peut-être un verre de quelque chose. Ça, c'est ce monsieur a vu ce spectacle-là. Alors, arrivé loin, il a pensé qu'il est plus en droit que cette pauvre qui vient s'asseoir au soleil, que lui. Lui, il est dans le confort, dans un bon véhicule. Il a décidé de rentrer. Quand il rentre, il arrive au lieu où il a pris avec ce monsieur, avec un paquet d'argent préparé, et il ne voit pas le monsieur. Où est passé le monsieur? Il sort du véhicule, il regarde à gauche, à droite et tout ça. Il demande à la femme, la meilleure monsieur, j'ai vu avec un sac, la femme dit, franchement, moi, je ne sais pas comment il était là, peut-être qu'il s'est découragé là, il est allé dans, il se lève, et tout le monde essaie de, les deux essaient de jeter un coup d'œil très lointain. Ils ne parviennent pas à retrouver ce monsieur. Or, ce monsieur a préparé ce paquet d'argent pour ce monsieur, alors sa niya doit être accomplie. Alors il a vu que c'est cette femme-là qui l'a motivé, il a pris toute cette liasse d'argent que cette femme peut gagner en un an ou deux ans, il a donné à cette femme-là. à cause de ça, c'est-à-dire de son petit geste de la sadaqa. Donc il y a ces asbab, ra'iya jidjan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour parvenir, n'est-ce pas, c'est-à-dire au risque. Et bienheureux sont ces shabab qui, n'est-ce pas, cette jeunesse. Parce que c'est nous le problème dans la plupart des cas, qui connaissent, n'est-ce pas, ces asbab et qui les prennent pour parvenir à ce dont ils ont besoin, comme ils le font. Et puis la prise des causes est très fondamentale. Souvenez-vous de l'histoire de Mariam. Mariam, Sabahan, les douleurs de l'enfantement, comme tout le monde a vu dans ce que Mariam, l'ont poussé vers le palmier. Ces douleurs de l'enfantement l'ont poussé vers le dattier, ou le palmier, Al-Muhim, Al-Nakhla, le dattier. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Mariam? Al-Zi, c'est-à-dire, secoue le tronc pour que des dattes fraîches. Une femme qui vient d'accoucher, qui a encore les logis, les trucs, épuisée de l'accouchement, dans cette douleur, dans cette fatigue, elle a besoin de tout, elle a besoin de tout le soutien. Mais Allah Azzawajal demande quand même à cette femme-là de se secouer. Allah Azzawajal pouvait faire tomber toutes les dates pour elle. Mais Allah Azzawajal demande à cette femme-là de secouer le tronc pour que lui tombe des dates fraîches. Beaucoup de savants ont dit que c'est l'éducation de la prise des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans Sourate Maryam et dans la plupart des nusous. Maintenant, le chef à la suite, il dit Hayyun alimun qadirun mawjoudu kamat bihi al-ashya'u wal-wujoudu. Donc ça c'est le deuxième vers de poésie que le chef a introduit. On va quand même essayer de prendre le reste de quelque chose de Dieu. Quand on dit Hayy, Hayy, le vivant, min asma' Allah Azza wa Jal, voici n'est pas un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, car Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa hu al-Hayy, n'est pas dans Ayat al-Kursi. Allah Azza wa Jal fait l'isbat de ce nom-là, Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy al-hayat al-kamil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant qui vit, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'une vie parfaite, c'est-à-dire la perfection de la vie, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allati lam yani tasbaq bi Adam. Et Allah Azza wa Jal, quand on dit qu'il est vivant, cette vie d'Allah Azza wa Jal n'a pas été dévancée par l'inexistence. Faites très attention. Subhanallah, la vie d'Allah est dit, wala yahaqu wa zawal, et cette vie n'aura pas un terme ici. Ta'alallahu wa taqaddas. Al-ayatul kamila bi jami' sifatil kam. C'est-à-dire, la vie d'Allah est une vie parfaite avec tous les attributs de la perfection. De ce point de vue, tout ce que vous voyez comme vie n'a pour origine qu'Allah Azza wa Jalla. Et tout ce qui demeure ne demeure que par Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui donne la vie, toutes sortes de vies. La vie physique, où nous respirons, où nous... même les plantes, les animaux, l'être humain c'est Abd al-Akmal, mais aussi la vie de la foi. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans quelques versets de Surat Al-Anfal, Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillah wa lirasul idha da'akum lima yuhyikum. C'est-à-dire, oh, vous qui avez pu répondre à l'appel d'Allah, à l'appel de son messager, quand il vous invite, c'est ce qui vous donne la vie. C'est-à-dire, la vie dans la foi, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne cette vie-là. Ta'alallahu wa taqaddas. Nam, qawluhu alim, yani du'il, c'est-à-dire doté de science. Sauf que le savoir, qu'est-ce qu'il y a l'ilm, il va coucher à la main ou à l'ilm. C'est le fait de percevoir une chose comme ça se doit, c'est-à-dire à la perfection. Il faut percevoir une chose telle qu'elle. Parce que vous savez que les niveaux de perception sont très nombreux. Ce n'est pas toute perception qui est une perception parfaite. Quelqu'un peut percevoir mais fait des confusions. Quelqu'un peut percevoir, il doute. Il y a un chat, al-waham. Mais pas tout ça sont des niveaux de perception. Par exemple, celui qui doute, c'est lequel? Celui qui doute, c'est celui à qui on demande de choisir ces deux portables mazalam. On lui dit, choisis l'un des deux. Alors, quand il observe ces deux portables attentivement, il est vraiment impressionné par les deux. Comment est-ce qu'on saura qu'il a le doute? C'est que lorsqu'il va prendre ce portable et s'en ira, il aura l'impression que celui qu'il a laissé est meilleur que celui qu'il a. Alors, un choc. C'est ça le doute, c'est un niveau de perception. Et aussi l'ignorance, qui est un niveau de perception. Sauf que l'ignorance, c'est ça, c'est-à-dire à Dieu, pour ce qu'on appelle Jahl al-Basir. Ignorance basique, c'est l'origine de tous les êtres humains. Wallazi akhrajakum min butumi ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, alors vous ne connaissez rien. C'est-à-dire que l'homme n'est pas né avec le savoir. Il doit l'acquérir parce qu'Allah a donné des instruments
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Il nous a donné lui la vue et le cœur, c'est-à-dire pour parvenir au savoir. لعلكم تشكرون. Peut-être à partir de cela vous serez reconnaissant. Donc, cette ignorance basique, c'est comme si on demande à quelqu'un, connais-tu, mazalan, un animal quelconque, connais-tu par exemple, des choses rares là, qu'on ne trouve pas dans toutes les forêts par exemple. Mazalan, walillahi mazalul a'la, connais-tu l'hérisson? Lui c'est quelqu'un qui vit au Sahel, je ne sais pas, peut-être au pôle, il dit non, je ne connais pas. Ça c'est l'ignorance basique, il n'a aucune idée du tout. Mais il y a une ignorance qui est très mauvaise. L'ignorance complète. C'est-à-dire le murakab. Quelqu'un il est ignorant, il se prend pour un savant. Il est ignorant, il ne sait pas qu'il est ignorant. La plupart d'entre nous peut-être, il faut éviter cette ignorance parce que c'est une mauvaise ignorance. Et aussi parfois l'ignorance complexe, c'est cette ignorance où quelqu'un a le savoir, il ne le met pas en pratique. Ça entre dans l'ignorance. Parce que lorsque les Bani Israël ont demandé à Moussa alayhi salam de décrire le bélier qui doit, la vache qui doit s'immoler, il disait toujours A'udhu billah, Rabbuna min al-jahilin. Ce n'est pas comme Moussa, c'est un ignorant qui ne connaît rien du tout. Mais il a peur de ne pas œuvrer, comme on dit certains savants, avec le savoir qu'Allah y a acquis. Donc, ce type d'ignorance, c'est la pire des ignorances. C'est-à-dire, elle nous rappelle. Si quelqu'un est ignorant, il fait tout pour se ranger parmi les savants. Il joue au malin. Il ne veut pas étudier. Il ne veut pas mettre du sérieux et faire le malin. Ça ne paye pas. Et ça n'aide jamais quelqu'un qui est de ce genre. C'est pourquoi beaucoup de pieux prédécesseurs ont dit Matal il baina al-kibr wal-haya. La connaissance a trouvé la mort entre l'orgueil et la pudeur, la honte. La honte, il faut voir que je m'asseye devant celle-là. La mort, le savoir meurt dans ça. Par contre, on n'a pas vu ce comportement chez les salafs pour sale. Un peu prédécesseur, subhanallah, on a entendu, il a dit, si j'entendais quelqu'un, soyez très attentif, le Shabab, et mes chers, il dit, si j'entendais quelqu'un mentionner un récit que moi j'ai écouté du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, alors que lui il n'était pas né, je vais rester les utiles. Parce que quelqu'un qui veut s'instruire d'être humble et patient. Votre humble et patient. Les sables étaient tous à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sables disaient à leur frère qui voyait passer Ijlis ma'ana sa'a et que nous m'y. Assois-toi avec nous une heure comme toi. C'est-à-dire que notre foi augmente. Mais tous sont les sables. Personne ne fait le malin. Tous étaient là avec le messager d'Allah. Personne ne dit comment j'étais avec le messager d'Allah, pourquoi j'ai besoin de... Vous comprenez? Là, chaque fois qu'il voyait un frère, il dit, arrête-toi, pardon. Reste une heure avec nous pour que notre foi augmente, c'est-à-dire parlons-nous d'Allah, parlons-nous de la sunna, afin que ça nous fait accroître la foi. C'est ça le maqoul. Et c'est des gens comme ça qu'on a traité des savants. Et c'est pourquoi vous voyez souvent comment nos cœurs sont percés. Lorsqu'on entend certains rijal al-shawari, parmi les mujrimines et les poussards et les mouchardoun, ces agitateurs et ces pervers qui osent dire que les sahaba n'avaient pas de savoir. Avec ne pas à dire les tromperies du développement technologique qui les a trompés, et sans oublier l'influence de leur prophète qui est Shaitan alayhi l'anatullah, ils disent que les sahaba ne connaissent pas, parce qu'à leur époque il n'y avait pas de lunettes astronomique, dentro ça a détaillé les microbates et des choses pareilles. Ils ne peuvent pas estimer des choses que nous on estime. C'est grave. Penser des choses pareilles, les Sahaba, c'est sous au vent, dit. Les Sahaba sont les plus savants des hommes. Wallah, certaines paroles des Sahaba, bal, disaient les Sahaba, certaines paroles de leurs élèves, des Tabi'in, ou les Tabi'in, qui ont gardé cette chaîne sont devenus des règles de base dont toute la communauté s'est pliée pour servir et mettre en pratique. Parce que les discours n'étaient pas des petits discours comme ça du village, des rues ou de la rue, c'était des discours mûrs. Parce que c'est ce Coran là, que le Prophète a expliqué aux Sahaba. le Coran. Subhanallah, quelqu'un qui entre dans l'école du Coran, enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit wa ma farafna min kitab min shay, on n'a rien omis dans le livre. Il est baissé. Regardez Imam Ali. Ça, c'est les élèves, des élèves des Sahaba. Il est parmi les élèves des élèves des Sahaba. Malik ibn Anas, Imam Garul Hijra. Lorsque quelqu'un est venu demander Ar-Rahman al-Arshi Tawa, Kefa Tawa, tout miséricordieux s'est établi sur le tombe comment? Cette question était très dure parce qu'Imam Malik a vu en cet homme-là un criminel. Il va corrompre la foi des gens. À la fin, il a demandé qu'on le chasse de la mosquée. Parce que c'est une bid'a qui cherche à voir le comment des noms et des attributs d'Allah. C'est une bid'a. Parce que nous avons une règle, Allah dit « L'état kamis lihi shay » Rien ne ressemble à Allah. Comment est-ce qu'on va dire comment? Là, il y a dit « C'est pas possible. » Mais Imam Malik a dit « Al-Istiwa ma'loum, al-Kayfiyat al-Majhoul, al-Imanu bihi wajib, wa su'alanu bid'a » L'établissement sur le plan est connu, la dîme de comment est ignoré, cette foi est strictement obligatoire, et chercher à savoir comment c'est une innovation. Et dit, Abu Jou, Al Rajul, Sayyidina Moussade, chasser cet homme de la mosquée, c'est un innovateur. Chasser cet homme de la mosquée, il faut l'expliquer de la mosquée. Quelqu'un qui peut mettre un peu de passion peut penser qu'il m'a mal exagéré. Comment il chasse quelqu'un de la mosquée? Oui, on dit non, il m'a mal a raison. Parce que si il est recommandé de chasser dans la mosquée quelqu'un qui vient parce qu'il a mangé de l'ail et l'oignon, sauf s'il est valable, voilà, c'est-à-dire si c'est un médicament qui prend masalam, pour le chef du houdour. Mais quelqu'un n'est pas, c'est-à-dire qu'il y a une hygiène pas plaisante et a mangé de l'ail et l'oignon, il vient à la mosquée, cela est faux. Combien de fois celui qui vient pervertir la foi des gens? Mais plus encore qu'on sort de la mosquée. Et c'est ça même l'islam. C'est pourquoi cette religion, Yadjama, a besoin des hurata, de ses gardiens. Et pour qu'on soit les gardiens de l'islam, et des vrais gardiens. Regardez, ça dit, chaque terre a ses frontières. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit ici, l'autre soit à un kilomètre. Là, il faudrait que nous soyons en rang serré. Que si quelqu'un veut passer entre nous, celui qui est là le voit, celui qui est là le voit. L'islam a besoin de ses hurata. L'islam a besoin de ses ligats. Parce que vous savez que le Coran est capable de résoudre ce que l'épée et le sabre et les armes ne peuvent pas résoudre. C'est la tête, hein? C'est pourquoi nous remercions beaucoup nos ulamas qui nous incitent à acquérir le savoir. Parce que le shirak de cette religion, c'est le savoir. Et bon, vous savez que d'autres pensent que le djihad avec la science est plus difficile que le djihad avec l'épée. Parce que quelqu'un qui est simplement courageux, et l'ennemi a une hymne alia, c'est facile qu'il aille au djihad. Comprenez, Adjama, hein? C'est facile qu'il prenne son épée, à condition qu'il soit courageux, et qu'il soit ferme dans son intention, ça c'est seulement ça, la condition. Shuja a le courage. Et regardez ce que Sa'd ibn Nadr a fait le jour de Uhud. Il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh. C'est-à-dire que Sa'd ibn Mu'adh, un des Sa'd ibn Jalil al-Muhim, il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh. Il a dit, il y a Sa'd, surtout parce qu'il était parmi les Sa'd qui n'ont pas fait la guerre de Badr. Vous savez que ces Sa'd qui n'ont pas fait la guerre de Badr étaient très motivés à faire, n'est-ce pas, la guerre de Uhud. Parce qu'ils connaissaient le mérite de mourir martyr. Bal, vous savez que parmi ce qu'on raconte dans l'histoire, le prophète Allah ça n'était pas très motivé de faire cette guerre au moment où les Sa'd l'ont galvanisé. Vous avez tous lu ça dans l'histoire. C'est pourquoi lorsque le prophète Salah Sama allait porter son armure, les sahabas se sont confessés, ils ont dit non, c'est à cause de nous. Allons demander qu'il enlève. Et tout le monde a suivi la réponse. Le prophète Salah Sama a dit n'appartient pas un prophète lorsqu'il a déjà porté l'armure d'enlever, jusqu'à ce qu'Allah tranche entre lui et ses ennemis. Ah, celui-là, il a dit à Sa'd, Ya Sa'd, il y a Shum, ri al Jannah du Na'ud. Je suis en train de lui mettre l'odeur du paradis derrière Uhud. Il allait à Uhud, Wallahi, personne ne l'a reconnu, sauf sa sœur. On l'a décapité en petites tranches comme ça. Lakin, prendre des nusous pour discuter avec les nusous, c'est difficile. Parce qu'avec les nusous, vous savez que dans le Coran, il y a des versets abrogés et abrogeants. Dans le Coran, il y a ce qui est mujmal, global et ce qui est spécifique. Dans le Coran, il y a des causes de révélation qui aident à comprendre le nas dans les causes de suite. Ce qui fait que parfois, pour répliquer à un moussade, tu vas mettre 3 à 4 mois pour travailler, pour chercher seulement une parole que tu viens donner à un moussade pour le convaincre. Parce que tu dois fouiller. Ce ne sont pas des moussades, madame. Le terrain est existant parce que tu vas argumenter par la parole d'Allah. Et la parole d'Allah a besoin, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on soit à la hauteur. Parce qu'on va trancher. Mais ce n'est pas facile. Il y a des gens qui jettent des équivoques, qu'il est très difficile d'enlever. Voilà même d'ailleurs pourquoi beaucoup de diocésains n'aiment pas que quelqu'un discute avec les bid'ah. Ce n'est pas parce qu'on est fragile, parce que non. Parce que parfois, quelqu'un, faible, on peut lui jeter des équivoques, il se met à réfléchir. De manière générale, l'islam n'aime pas les disputes, c'est la règle. Regardez celui qui a défendu la secte de Jahmiyya. C'était un monsieur qui aimait beaucoup discuter. La Providence a voulu qu'il rencontre des bouddhis, c'est-à-dire des gens qui sont comme des bouddhis, des choses par là. Et il parlait tout le temps d'Allah. Tout le temps, il aime parler d'Allah. Alors que là, lui, on dit tout. S'il te plaît, nous sommes fatigués. Allah, dont tu parles tous les jours, tu l'as vu de tes yeux? Il dit non. Tu l'entends parler? Il dit non. Ça devient catastrophique, parce qu'on veut l'amener quelque part. Tu l'as touché de ta main? Il dit jamais. Tu le mets avec tes narines là, il dit non. Il dit bon, va prendre ton temps, tu nous donnes des précisions parce que il se peut que tu ne connais même pas Allah. Il est allé rester. Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est ce qui suit. Il était obligé de faire 40 jours sans prier pour réfléchir sur la question. Voilà les dégâts des disputes. À la cour du Hajj, il se peut que le temps nous a pris de court, mais Inch'Allah, on aimerait revenir sur Qawluhu Alim. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous allons nous arrêter ici. ولا لا في هذا الكتاب الكفاية والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك